Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Maître Mongeon, vous êtes radieuse aujourd'hui.
Ah, oh, vous trouvez? Merci
avec
beaucoup.
Le soleil, ça
Allô,
va
Sophie.
Bien.
Bonjour.
Alors, Sophie, aujourd'hui, scandale de fraude et de corruption dans le basketball universitaire. À la base, on sait qu'un athlète universitaire américain n'est pas rémunéré. Il lui fait ses études, il joue à son sport, il se fait repêcher, puis là, c'est le gros contrat pour les vedettes, bien sûr. Ça, c'est la théorie.
Oui.
Maintenant, la pratique, ça.
Bien, en principe, déjà d'être admis dans une université puis être les études tout payées, c'est une genre de rémunération.
Oui.
Mais il y a un jeu de coulisses qui s'est installé dans les dernières années. Je ne peux pas vous dire à compter de quand, mais on sait là, qu'il se passe des choses particulièrement, là, des enveloppes brunes, comme on pourrait dire.
Comment on gâte ces athlètes-là? Parce que pour l'instant, il y a eu une enquête qui a été menée par l'FBI pendant 2 ans là-dessus.
Oui, bien, l'enquête a commencé en septembre 2017 puis il y a eu 3 vagues. La dernière vague vient de se terminer récemment, où des gens ont été condamnés quand même à des peines de prison, là. Alors, de 6 à 9 mois de prison pour 2 personnes en particulier, mais ils ont porté en appel leur jugement. Alors, on ne sait pas vraiment là, comment ça va aboutir à tout ça. Mais je pense que l'important de comprendre, c'est que le NCAA, qu'est-ce que c'est? C'est le National Collegiate Athletic Association, que moi, j'assimile un peu à la RSEQ ici aujourd'hui. Tu sais, quand tu vas à l'Université de Montréal, à McGill ou à Concordia ou des affaires comme ça, tu as des équipes sportives qui sont gérées par le réseau sport-études du Québec. Donc ici, c'est clair que c'est de l'amateur.
Oui.
Mais aux États-Unis, étant donné que les sous sont tellement en jeu, tu peux faire une grosse carrière de basketball, puis on s'entend pour dire que c'est souvent des jeunes qui sont démunis, qui, au niveau du basketball,
qui autrement serait peut-être pas à l'université. Là. Ben, il y a un côté noble à tout ça. Là,
oui,
c'est ce qu'on appelle un scholarship, les amis. Si le gars est assez bon, c'est la même chose au hockey, au football. Si le gars est assez bon, on va y offrir les études gratuites, si tu veux. Là.
Exact.
Ça peut coûter 25, 30 000, 35 000 piastres par année, là, étudier dans une université américaine.
Un minimum. Là.
Il suffit d'écouter n'importe quelle série américaine pour se rendre compte que c'est gros. Là, parce que dans chacune des séries, tu as un ado qui va finir par faire du football, puis il va finir par aller à l'université à cause du football, pas le contraire, tu sais.
Donc, c'est ça. Il y a 10 personnes qui ont été ciblées dès en septembre 2017. Sur les 10 personnes, aujourd'hui, avec du recul, on constate qu'il y en a 9 qui ont été condamnées. Le 10e n'a pas été condamné. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a reçu, il l'a gardé pour lui-même. Il ne l'a pas redistribué ni aux coachs ni aux athlètes. Alors, lui, il a été acquitté parce que, dans le fond, il n'avait pas fait de la fraude ou de la collusion ou du complot. Parce que, finalement, les sous qu'il avait reçus de Nike ou Adidas, parce que c'est les 2 grosses compagnies qui sont en cause, donc les sous qu'il donnait, lui, il a gardé pour lui. Fait que finalement, mieux pour lui.
Tant mieux pour Séraphin.
Mais ce qui se passait, dans le fond, c'est que... oui, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adidas et Nike, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient de l'argent aux coachs d'une équipe ou d'une université pour recruter des jeunes. De cette façon-là, étant donné que tu peux, pour faire partie de NCAA, tu n'as pas le droit de recevoir aucun argent, aucun sou d'une façon ou d'une autre.
Donc, lui, quand il arrivait dans les salons des familles pour convaincre le joueur de venir, il n'arrivait pas juste avec des arguments, il arrivait avec de l'argent.
De l'argent. Puis comme on disait tantôt en début, étant donné que c'était souvent des gens qui sont, ben pas souvent, mais parfois en basketball, on s'entend pour dire que c'est des gens qui arrivent qui sont défavorisés, ben c'était une façon de les inciter à venir à une école qui était un peu financée, par exemple, par Adidas. Et une fois que tu avais accepté ces sous-là puis que tu t'inscrivais à l'école, après ça, tu étais incité à faire affaire avec des collègues ou des complices de Nike ou Adidas. Particulièrement, il y en a 2 en particulièrement qui s'appelaient Codd et Dawkins. C'est eux qui se sont vraiment fait un peu pincer, qui eux aussi étaient des agents aussi. Fait qu'une fois que Nike ou Adidas payait ta famille ou via le coach pour que tu fasses partie de cette école-là, ensuite, tu étais incité à faire affaire avec ces 2 agents-là qui, pour négocier tes contrats avec le NBA. Fait qu'en partant, dès le départ, on parlait plus que tu étais un amateur parce que pour faire partie du NCAA puis t'inscrire dans une division 1 ou 2 au basketball, il faut que tu aies un certificat d'amateur. Et pour avoir un certificat d'amateur, faut pas que tu aies pris de pause entre le high school et le collège. faut que tu fasses affaire avec aucune agence de recrutement. T'as pas le droit de recevoir d'argent de aucune équipe. T'as pas le droit de recevoir aucun sou d'une agence. Et t'as pas le droit de recevoir de sous commerce pour un produit ou un service. Alors, c'était une façon indirectement pour ces grosses compagnies-là d'obtenir des recrues et d'un peu de les contrôler, là.
Souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, puis je l'ai lu à plusieurs reprises, les compagnies, les clubs, les collèges, LP et Sophie, pour justement attirer le joueur, pouvaient payer, jusqu'à payer une maison aux parents. Wow. Du joueur, là, même des voitures, c'était pas le joueur directement qui recevait les sous, sauf que si le collège se présente ou si une compagnie comme tu dis, Sophie, Nike ou Adidas ou New Balance ou nomme-les, là, dit, regardez, monsieur, madame Guy, là, je vous paye une maison, mais il faut que votre gars vienne au collège avec nous. Donc, c'est un incitatif là, pour attirer les joueurs. Ils se sont fait pincer, par exemple.
Oui, bon, c'est pincer. Ça, incitatif.
Éventuellement, ils se font pincer parce qu'à un moment donné, ça sort. Là,
le terme péjoratif, c'est pot de vin. Là. C'est un scandale
c'est
de
ça,
pot de vin.
C'est ça, exactement.
Oui, oui. Puis les pots de vin, ils allaient quand même assez loin. Vous êtes au courant un peu du March Madness?
Oui, on a suivi ça. On avait notre braguette.
Oui, moi, c'était à Colgate, puis ils m'ont pas fait honneur cette année.
Ah, exact.
En 2018, là, le March Madness, si je me trompe pas, c'est Louisville qui avait gagné. OK? Mm-hmm. Et ils se sont fait enlever leur gain parce que Rick Pitino, qui était un des chefs de Louisville, avait payé des escortes pour recruter des joueurs. Donc, étant donné qu'il avait considéré ça comme aussi un pot de vin, il avait enlevé le gain à Louisville à l'époque.
Ça, c'est un scandale, non pas de pot de vin, mais aussi de mœurs, là.
Oui, ben aussi, c'est tous des jeunes, on s'entend, là, ça sort du secondaire.
C'est grave, là.
Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même prendre pour acquis que le NCAA, là, en 2017, a fait 1 milliard de profits. Fait que ces jeunes-là, là, indirectement, ils sont pas rémunérés pour faire ça, mais ils créent des bénéfices de 1 milliard. Tu sais, CBS paye 8,8 milliards de dollars à le NCAA par année pour diffuser ces matchs-là. Fait que la question qu'on doit se poser, c'est que, OK, c'est bien beau qu'ils ne peuvent pas être rémunérés, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir des incités à obtenir des sous ou quoi que ce soit? Fait qu'il y a des solutions qui ont été apportées à ça.
Le film Blue Chips, selon l'auditeur qui nous texte, là, est un film qui explique bien ce système-là de pot de vin dans le sport universitaire américain.
C'est un film qui date de quand,
Blue
ça?
Blue Chips, c'est un film qui date de... C'est un film de 94.
OK, ben écoutez, ça serait approprié là, de le regarder de nouveau. Fait que c'est quoi les solutions à ça? Parce qu'on comprend que ces jeunes-là, payer un scholarship, c'est une chose, mais aussi, tu sais, faut un peu comme la Ligue junior majeure, ils ne sont pas rémunérés énormément là, pour toutes les... les fans qui lui mettent, puis pourtant, il y a des millions de dollars qui tournent alentour de
tout
ça. Quand
on écoute la série Demain des hommes qui s'inspire de la réalité du junior majeur qui a passé à Radio-Canada, qui est surtout .TV, ce qu'on se rend compte que il y a des joueurs qui arrivent qui ont un statut particulier. Il y a le gardien russe qui débarque, puis on lui fournit le condo, alors qu'habituellement, il faut qu'on vive dans des familles de pension. Le propriétaire va le chercher à l'aéroport, on lui fournit la voiture, on lui fournit le condo. C'est de la rémunération, ce sont des conditions particulières. On m'a déjà dit, et je nommerai pas la source, mais on avait tenté d'amener Ovechkin avec les Remparts de Québec à l'époque, qui jouait en Russie. Lui avait des grosses demandes. Il voulait que sa conjointe, qui était avocate, qui était majeure, vive avec lui à Québec. On lui a refusé ça, parce qu'au Québec, ça peut pas fonctionner comme ça. Le mineur qui arrive, qui a moins de 18 ans, il vit dans une famille de pension, il vit pas avec sa blonde, même si elle est plus vieille. Il vit d'une pension. Il avait aussi demandé un sport utilitaire. Ça, il n'y aurait pas eu de problème.
Oui, ça, effectivement. Là, je pense pas qu'on ait eu de problème à lui fournir
tout
ça.
Tout ça conditionnel parce que ben, c'est ce qu'on me dit dans des arénas.
C'est du oui-dire. C'est du oui-dire. Donc, c'est quoi les solutions à ça? Donc, la question, c'est pour faire une combattre contre la corruption dans le NCAA. Donc, est-ce qu'on passe par l'abolition du modèle de l'amateurisme? Ce que je vous ai expliqué en début. Alors, il y a trois solutions qui ont été mises de l'avant. C'est quoi? Soit donc créer un système de bourse pour joueurs étudiants qui leur permettrait de vivre confortablement sur un campus, donc une histoire de bourse, ou des primes à la performance comme le fait le Comité olympique américain pour ses médaillés, ou tout scraper le processus de recrutement et organiser un repêchage comme aux juniors majeurs ici. Ça, c'était des solutions là, qui étaient apportées pour tenter d'éviter. Parce que là, une fois que ces trois jugements-là ont été rendus, donc un en septembre 2017, un récemment, puis un autre en juin, donc trois vagues, et toutes les écoles n'ont pas été épargnées. Là, c'est bien beau que le fédéral a fait ces poursuites-là, mais là, le NCAA fait quoi avec ça? Comment il va faire pour abolir tout ce processus-là? Alors, il faut trouver les solutions, puis c'est les trois solutions qui ont été apportées. Mais dans les prochaines années, il va falloir qu'il y ait toute une restructuration là, au niveau là, du NCAA.
La différence entre le RSEQ et le NCAA, c'est que là-bas, quand tu fais un match puis que le stade contient 50 000, il y a 50 000 personnes. Ben, peut-être même 50 000, 50, parce qu'il y en a 50 qui se faufilent.
Tu sais, au football, il y en a 100 000.
C'est
plein. Les
c'est 100 000.
C'est 100 000 personnes. Là.
C'est plein. C'est plein, c'est partout. Alors qu'ici, le sport universitaire, c'est quand la dernière, tu sais, c'est à part quand vous arrivez dans les finales, là, c'est pas les stades sont pas pleins, puis c'est pas des déplacements de dizaines de milliers de personnes. Là. Il y a de l'argent donc relié au sport universitaire. Alors les jeunes, on les paie pas et on paye une somme astronomique aux coachs. Les coachs qui peuvent aussi faire de la publicité, ce que les jeunes ne peuvent pas faire, à un moment donné, l'argent va se rendre. Là, t'sais.
Ouais, c'est ça. Un milliard.
Puis corrigez-moi, Ben, corrige-moi si je me trompe. Là, Jim Harbaugh à Michigan, là, il fait quoi? 6-7 millions par année pour coacher du collège? Là? C'est ridicule, là. Vraiment. Là, c'est une autre planète, là, les collèges américains, là, vraiment. Puis on parle de 110 000 personnes là, au match à chaque semaine à Ann Arbor. Là. Donc c'est pas la même ligue du tout, là, les amis.
Un petit point avant de se laisser, parce qu'on vient de parler d'un sujet super important, mais il y en a d'autres aussi. Dans le sport, les boissons énergisantes sont largement répandues. On avait dit la semaine passée qu'on parlerait de quelques jugements là-dedans et puis de quelques conséquences à consommer ces boissons-là.
Oui, bien récemment, en février 2019, on sait qu'on a vu une dame là, qui a été obligée de se faire installer un cœur mécanique à 27 ans et la cause a été vraiment identifiée comme les boissons énergisantes. Déjà, en juillet 2018, on avait un jeune de 32 ans, qui a dû subir une transplantation de foie également parce qu'il prenait trop de boissons énergisantes.
Aïe, aïe, et on ça scape le foie, là.
Ben, oui, c'est... et on se rappelle du décès d'Athéna Gervais, là, qui était une copine à mes enfants, parce que moi, je reste à Laval, alors cette jeune dame-là est à Laval. Et c'est clair qu'elle, pendant la pause du midi ou l'avant-midi, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est allée au dépanneur ingérer une quantité incroyable de le fuck-top. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, cette
la
boisson.
La fuck-top, hein?
Ouais, c'est une boisson...
Tu vois pas ça, ces affaires-là.
Ben, moi non plus. Puis le coroner est arrivé à la conclusion, puis il l'a dit, écoute, il faut vraiment, faire en sorte de couper la relation entre les boissons énergisantes et le sport. Ça va pas ensemble du tout. Puis ça, c'est ce que les producteurs de boissons énergisantes essaient de vous dire, c'est bon pour le sport, etc. Fait que, c'est d'essayer d'arrêter de faire l'analogie et le fait que ça va ensemble.
C'est difficile quand Red Bull et surtout les casques des athlètes là, qui
éventuellement
se rendent aux Olympiques.
Ben oui, mais en 2014, vous le savez, hein, que Red Bull a fait un règlement en cours de 13 millions de dollars à ses consommateurs vu à cette fausse publicité-là qui disait « Red Bull donne des ailes ».
Alors, finalement, il n'y a pas d'ailes qui poussent.
Il n'y a pas d'ailes du tout, puis okay. Ça leur a coûté 13 millions, mais entre vous et moi, un 13 millions, c'est une aubaine. Hein?
Ah ben oui, 13 millions, c'est coût de quelques moteurs pour l'écurie Red Bull, ça.
À peine. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de réduire, parce que dans la boisson Focta, par exemple, il y a l'équivalent de 4 boissons alcoolisées.
Quatre boissons alcoolisées.
Oui. OK, il y a de l'alcool mêlé à ça.
Oui, plus la caféine puis toute la patente.
Exact. Dans le fuck-top, c'est ça qu'on a. On a quatre boissons et là, on voudrait le faire réduire à 1,5. Et ce qui était frustrant de ce temps-ci, c'est qu'Éducalcool a émis un communiqué où il indique que nous, on tente désespérément d'avoir un rendez-vous avec la ministre de la Santé fédérale, Ginette Petitpas, pour lui parler de ces dangers-là d'Éducalcool et il n'y arrive pas, tandis que le groupe Geloso, qui est les propriétaires de Fucked Up, eux, en lobbying, ont réussi à avoir un rendez-vous avec elle. Alors, c'est un petit peu là, les derniers développements. Je pense qu'avec les derniers décès, avec les nouveaux, avec malheureusement là, ce que je viens de vous raconter, l'histoire de transplantation de foie ou de cœur, je pense qu'on n'a pas fini de n'entendre parler les prochaines années, au moins que ça soit mieux réglementé, là.
Merci beaucoup, Maître Mongeon. Buvez pas ces affaires-là.
Mais non, c'est sûr que non. Un bon verre de vin blanc, là.
Ouais,
simplement.
Mais
bière froide, ça va être correct.
Ça aussi.
Oui, mais comprenez pas, les gens qui prennent ça, ils veulent avoir l'effet, mais ils veulent rester réveillés, là. T'sais.
Il y a une madame au dépanneur, là.
Le vin blanc,
au Tim Hortons, là, en dessous du pont Jacques-Cartier, à tous les matins, quand je vais chercher mon café, là. Il est 5h du matin, là. Elle en achète 3-4 à tous les matins.
Des Monsters, des grosses canettes, là?
Non, je pense des Red Bull, là.
Des Red Bull.
Mais ils n'ont pas toutes de l'alcool. Il y en a qui ont une caféine.
Non, mais ils ont de la caféine en calvados. Ouais. Ça, c'est pas bon non plus, là.
Il y a de l'alcool, tu peux en ajouter dedans aussi. C'est ça le problème. Ouais. Fait que c'est le jugement qui opère dans ce temps-là. Pas juste ce que les compagnies vous vendent, là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, là.
Ouais, mais on n'est pas obligé de se faire vendre un rêve qui n'est pas vrai non plus. Non,
ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, je viens de vérifier, là, j'ai pas d'aile. J'ai déjà bu un Red Bull, là, j'ai pas d'aile qui ont poussé. Merci, maître Mongeon.
Merci.
Salut, Sophie. Bye.